1901 sur 90, c'est la radio des assos. Une émission proposée par l'AGLCA, Maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse, avec l'aide précieuse de Radio B. Chers associatifs et associatives, bonjour. Pour ce mois d'avril 2019, une émission sous le signe de la lutte contre la maltraitance des enfants, puisque nous allons discuter prévention, adolescence, parents, comment réagir face à de telles situations. Car aujourd'hui, nous avons comme invité, pour parler de l'association Enfance et Partage, Chantal Dussault, qui en est la déléguée départementale. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous remarquerez, chers auditeurs et auditrices, que pour ce lancement, je n'ai pas passé la parole à Sandra, qui co-anime habituellement cette émission avec moi, car elle n'est pas là. Mais ne vous inquiétez pas, vous la retrouverez dès le mois de juin. Après l'interview du jour, nous poursuivrons par un petit moment formation où je vous parlerai de l'embauche du premier salarié. 1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour. Alors Chantal Dussault, on parle d'enfance et partage. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans mon lancement? Est-ce que en résumant en deux mots, voilà, l'enfance et partage agit bien sur ces sujets-là? Voilà, si on devait résumer en deux mots le projet d'enfance et partage.
C'est parfait, vous avez bien résumé, mais c'est très difficile effectivement de résumer l'enfance parce qu'elle est longue, elle est belle, mais elle est fragile, il faut la protéger. Et c'est ce que fait l'association Enfance et Partage.
D'accord, l'objectif, protéger l'enfance.
Protéger l'enfant.
Donc de la naissance.
À la majorité.
À la majorité, d'accord. Est-ce que l'association est animée par des valeurs particulières? Qu'est-ce qui guide votre action au quotidien?
Ce qui guide notre action, c'est la Convention internationale des droits des enfants, qui a donc la signature de la France, s'est faite en 1989. Donc nous fêtons cette année les 30 ans de cette adhésion de la France à la Convention internationale des droits des enfants. Et ces droits, donc, c'est ce que nous allons faire connaître auprès des enfants dans les établissements scolaires.
D'accord, donc un de vos moyens d'action, c'est de faire respecter les droits des enfants et donc par des interventions dans les écoles.
C'est ça, alors respecter, mais pour respecter quelque chose, il faut déjà le connaître. Et donc c'est très important, dans l'éducation nationale évidemment, parle déjà des droits des enfants, mais les enfants parfois retiennent davantage ce que disent les mamies quand elles viennent dans les établissements scolaires et qui abordent cette connaissance par des ateliers de théâtre, des ateliers de discussion, également des ateliers de dessin.
Alors, quels sont les principaux droits sur lesquels vous êtes interrogé, peut-être par les enfants, ou sur lesquels peut-être ils sont surpris, ou sur lesquels il faut travailler?
Alors, le premier droit, celui qui chapeaute presque tous les autres droits, c'est le droit à être protégé. Parce que l'enfant est fragile, nous le savons bien. Il faut du temps à l'enfant pour être autonome, ne serait-ce que pour marcher, ne serait-ce que pour parler. Et pour tout ça, l'enfant se développe bien, s'il est bien protégé. Et l'enfant bien protégé devient un adulte responsable.
Donc ça veut dire une protection qui passe par les parents, par la famille, mais aussi par, du coup, par l'école ou par tous les adultes qui sont autour de lui.
Par la société.
Par la société.
À tous les échelons. Mais par, c'est les parents, donc les parents qui ont la capacité de protéger l'enfant par rapport à l'environnement, ne serait-ce que d'avoir un toit, nourrir correctement. C'est aussi les institutions qui mettent en place un système qui va permettre à l'enfant de se sentir dans la vie à sa place. Et puis c'est également les institutions, oui, je viens de le dire, c'est aussi bien sûr l'éducation nationale, mais le sport, la musique, etc. Tout doit permettre à l'enfant de se sentir protégé.
Ça veut dire que au sein d'Enfance et Partage, vous êtes des bénévoles, il y a des professionnels, voilà, qui compose, vous êtes délégué départemental, c'est-à-dire qu'il y a une association nationale.
Voilà, c'est une association nationale qui comporte des bénévoles et des professionnels. Donc au niveau du comité de l'Ain, nous ne sommes que des bénévoles, c'est déjà pas mal, mais nous avons des relations et une aide directe avec les professionnels du siège à Paris, qui sont des professionnels du droit ou de la psychologie également, puisque quand nous aidons des familles qui sont en difficulté, on peut être amené à leur donner des conseils juridiques, parce que les familles ont une procédure en cours et nous trouvons souvent des problèmes liés à la séparation des parents.
Donc, vous faites des interventions dans les écoles, mais si voilà, une famille a un cas plus particulier, vous accompagnez aussi des cas spécifiques, donc que ce soit lié à de la séparation des parents et sur d'autres sujets aussi.
Voilà, c'est l'originalité un peu de notre association, c'est que nous avons un éventail très étendu d'activités. Et donc, les parents, donc on peut nous téléphoner parce qu'il peut y avoir une crainte de maltraitance vis-à-vis des enfants. Alors le cas, c'est donc un couple qui se sépare, l'enfant devient un peu l'enjeu de cette séparation et chacun revendique l'enfant, mais aussi revendique des maltraitances qui peuvent être faites à l'enfant. Et l'enfant est pris entre ses deux parents, alors l'un ne veut plus permettre à l'enfant d'aller voir le père, l'enfant, ou inversement. Il y a vraiment énormément d'appels téléphoniques pour des conflits liés à une séparation de parents.
Mais du coup, vous n'avez pas un rôle d'avocat, mais vous avez un rôle de veiller à ce que l'enfant soit protégé dans ce cadre-là.
On a un rôle d'écoute.
D'accord.
Déjà, c'est beaucoup. On a un rôle également d'aide dans le dossier, parce que les termes juridiques sont compliqués, le système juridique est compliqué, donc il faut parfois et souvent aider, décortiquer le dossier et diriger les familles auprès des avocats.
Alors, on vous a demandé de venir avec un objet pour qui illustre un peu l'association. Alors, je spoil un peu, je vois trois poupées là devant moi. Alors, à quoi elles servent ?
Alors, vous voyez, ces poupées, déjà, elles sont un peu typées. Il y en a une qui est de couleur, il y en a une qui a les yeux bridés, et une, c'est une fille avec une robe. Tout ça, ça illustre le droit à la différence que nous retrouvons dans la Convention internationale des droits. Le droit à la différence, c'est nous sommes égaux, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre religion, quel que soit notre sexe. Et donc ces poupées nous permettent dans les écoles de pouvoir parler de tout ça aux enfants, même à la maternelle.
D'accord, donc c'est un outil pour aborder des sujets qui habituellement sont plus le prérequis des adultes sur l'égalité, sur aussi la religion, la couleur de peau, la tolérance. Avec ces poupées-là, vous abordez ça avec les enfants.
Tout à fait.
D'accord. Donc est-ce que vous avez d'autres activités où vous intervenez au-delà de l'accompagnement individuel ?
Alors l'accompagnement donc individuel, ça peut être aussi l'aide psychologique aux enfants, les enfants qui sont donc en difficulté, qui ne peuvent pas être pris en charge rapidement, on peut diriger ces enfants auprès de psychologues.
D'accord. C'est pas lié à un handicap ?
Non, c'est lié à une difficulté de maltraitance.
D'accord. Donc, quand on parle maltraitance, est-ce qu'on peut être aussi sur des cas de violence, des cas de harcèlement à l'école, sur des choses comme ça ?
Oui, toutes ces dénonciations qui nous arrivent ont des origines différentes, mais il peut y avoir aussi des problèmes d'attouchement sexuel, de viol, l'enfant a besoin d'être reconstruit, d'être pris en charge. Et l'association Enfance et Partage peut réagir très rapidement. D'autres institutions peuvent le faire, mais parfois c'est plus long. Et... Alors nous faisons aussi des... Si on nous dénonce une situation de maltraitance ou d'agression ou de viol, nous faisons un signalement soit donc au département qui est chargé de centraliser toutes ces informations préoccupantes ou ces signalements, et même au procureur de la République si la situation nous paraît vraiment très très délicate.
Donc face à une situation où ce ne serait pas la famille directement qui pourrait venir vers vous, voilà, on peut prendre contact avec vous vous ferez le relais ensuite vers les services, vers les autorités compétentes.
Je peux vous dire que nous avons eu par exemple une fois un professeur de danse qui nous a téléphoné pour signaler le doute qu'elle avait. Parce que le problème, c'est que tous les adultes qui travaillent auprès des enfants peuvent avoir des doutes, peuvent être, se sentir isolés face à une situation. Et téléphoner à une association leur permet d'échanger, de conforter, de les rassurer, etc. Et donc, c'est aussi une de nos actions d'intervenir auprès des adultes qui sont en lien avec les enfants. L'école d'infirmières, par exemple, dans des centres de formation, la DEA, nous allons également à la DEA. Et dernièrement, nous avons été contactés par la CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, à Ambérieux. Donc nous allons aller parler des droits des enfants et des comment nous vivons les droits des enfants en France.
Sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Sans apathie, monde d'espoir, partage la vie. Sentier de ardeur de la vie, de la vie.
Nous sommes de retour sur 1901 sur 90 sur Radio B avec Enfance et Partage et sa déléguée départementale Chantal Dussault, et nous parlons lutte contre la maltraitance des enfants. 1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour. Alors après la pause musicale, on a toujours l'habitude de demander à l'invité pourquoi le choix de cette musique. Voilà, un petit mot sur la musique qu'on vient d'entendre.
Ah ben vous voyez, le lien est facile puisqu'il y a d'abord le spectacle des choristes qui est passé en France il y a un an ou deux, je ne sais plus, et avec qui nous avons été liés puisqu'ils ont fait une opération de mécénat au bénéfice de l'association Enfance et Partage. Mais c'est aussi parce que je trouve qu'il y a des activités comme la musique, la peinture ou le sport qui aident les enfants à grandir, qui leur donnent des émotions, mais des émotions contenues dans un cadre et également leur permet d'échanger puisqu'il y a le respect de l'équipe ou de la chorale. Donc tout ça, ça me paraît important comme message.
Alors avant la pause, on commençait à parler des interventions que vous faites auprès des adultes. C'est vrai qu'on n'a pas discuté des parents. Être parent, ça s'apprend. Est-ce que vous intervenez sur des principes éducatifs? Est-ce que, voilà, si on est parent, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre
Alors, nous avons un numéro de téléphone.
D'accord, peut-être qu'on peut le donner
si
vous l'avez en tête. Alors, on cherche dans les papiers.
Je l'ai, ça y est.
Alors, un numéro de téléphone.
Alors, donc c'est au niveau parisien, il y a un pôle téléphonique, le 0800 00 3 4 5 6. Ça s'appelle Allô Parents Bébé. Ce sont des écoutantes professionnelles qui vont répondre aux questions, aux préoccupations des enfants. Parce qu'un enfant qui arrive du jour au lendemain dans une famille, c'est parfois déstabilisant, c'est parfois aussi parce qu'on veut trop bien faire. Et là, nous avons des écoutantes qui vont répondre, qui vont donner des conseils, pourquoi le bébé pleure. Il y a peut-être des suggestions, des messages à faire passer aux parents.
Et donc on a un tout jeune bébé, on ne sait pas trop, on découvre, on ne sait pas trop comment réagir par rapport au comportement qu'il a. Voilà, on peut appeler et on sera écouté et on pourra nous donner quelques conseils.
Oui, et tout ça, bien sûr, pour éviter que le parent ou les parents soient désespérés, ne sachent pas s'occuper de l'enfant et surtout finissent par devenir des parents agressifs.
Alors là, pendant la pause musicale, si j'ai bien lu, vous m'avez montré un petit message avec la question de la fessée que vous vouliez aborder. Alors voilà, on entend souvent que la France est condamnée parce qu'elle ne condamne pas en tout cas la fessée.
Alors la fessée n'est pas une méthode éducative.
Bon, ça c'est clair.
Ouais. On s'entend
tous les enfants
bien.
Qui nous écoutent, tous les parents, la fessée, ce n'est pas une méthode éducative.
Voilà. Mais bon, on peut parfois avoir un petit geste, mais il faut se retenir parce que statistiquement, c'est reconnu qu'un enfant qui avait subi des violences ou des fessées, évidemment, obéissait immédiatement. Mais 10 minutes après, il avait oublié et recommençait. En fait, peut-être que pour lui, c'est un jeu, même s'il y a de la violence. Donc il faut la fessée est interdite en France, comme dans 54 pays dans le monde. Et donc, c'est important de le savoir, c'est important de le diffuser autour de nous, parce qu'on a trop souvent cru que l'enfant se dressait.
Donc, vous êtes une association nationale qui travaillait pour lutter contre la maltraitance. Est-ce que, pour vous, ces problématiques en France à l'échelle nationale, elles sont suffisamment écoutées? Est-ce que vous avez un peu des chiffres, des statistiques un peu à nous donner sur les problématiques aujourd'hui de la maltraitance des enfants?
Les statistiques sont très difficiles à trouver. Les dernières que j'ai pu consulter hier, c'était quand même que deux enfants en France, par semaine, deux enfants décèdent de suite de maltraitance ou de sévices. Donc c'est vraiment énorme. Et en plus, on a constaté ces dernières années qu'il y avait un nombre plus élevé de viols qui étaient déclarés auprès des enfants. Et si les plaintes sont en hausse, les condamnations sont en baisse.
Alors, les plaintes sont en hausse. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la parole se libère et qu'on n'ose plus en parler? Ou est-ce que, à votre avis, il y a plus d'actes?
Je pense qu'on ose davantage en parler. C'est comme les violences faites aux femmes. Et je pense que c'est un tout si à considérer. Il faut considérer les violences faites aux femmes, parce que malheureusement, les femmes qui sont agressées, violentées, elles ont du mal à protéger leurs propres enfants. Et l'enfant qui vit cette situation vit également des moments douloureux qui le marquent pour la vie.
J'ai oublié ce que
je voulais
que
vous dire.
Eh ben,
par exemple, les plaintes pour viol sont passées entre 2015 à de 7361 en 2015 à 8788 en 2017. Donc vous voyez, il y a une grosse progression. Les agressions en 2017 se sont élevées à 14673.
Et pourtant, les condamnations sont en baisse.
Voilà.
Alors, comment ça peut s'expliquer ? C'est un défaut de formation de la justice ?
Non, je ne suis pas capable de porter ce jugement-là, mais c'est un constat quand même qui se fait. Et si on va rechercher le nombre de plaintes qui aboutissent, parce qu'entre le moment où il y a la plainte, il y a ensuite le non-lieu, il y a ensuite les dossiers,
les procédures qui sont pas suivies,
c'est,
voilà, des vices
etc.
de procédure.
Alors, je voulais arriver au chiffre je crois que c'est 7% par an seulement de dossiers qui vont vraiment jusqu'au bout de la procédure.
D'accord, sur l'ensemble des plaintes déposées, il y a seulement 7% des dossiers qui sont jugés avec un résultat, avec une condamnation ou pas de condamnation.
C'est ça, qui sont jugés durant cette procédure, dure des années. On a par exemple des procédures qui durent 15-20 ans. Et pendant ce temps-là, l'enfant, il grandit. L'enfant est alors, devient un adulte, ou alors l'enfant est déjà un adulte et il faut qu'il vive dans sa vie d'adulte ces 10 ou 15 ans de procédure. C'est... Ce temps, le temps de la justice, n'est pas le temps de l'enfant, n'est pas le temps de l'adulte. Ça, c'est très difficile à vivre pour quelqu'un qui subit cette situation. Porter plainte, d'accord, ouvrir un dossier, oui, mais c'est aussi une épreuve.
Alors, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, voilà, comment on peut faire pour aider Enfance et Partage ? On peut venir donner un coup de main, il y a des choses à faire en tant que bénévole, on peut faire un don, voilà, comment on peut venir aider ?
Alors, aider Enfance et Partage, je dirais, d'abord, il faut rompre le silence. Donc, si on a des doutes, etc., vous pouvez appeler. Alors, je vais donner un autre numéro de téléphone, qui est celui au niveau national.
Alors, à vos stylos.
0800 05 1 2 3 4.
Donc, on a un doute, on appelle, il y a des personnes pour nous écouter. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on aura dépassé une limite. Voilà, on a un doute, on ne reste pas tout seul face à ce doute-là.
Et à Bourg-en-Bresse, vous pouvez nous appeler au 04 74 21 07 77.
Donc on vous trouve à ce numéro-là. Est-ce qu'on vous trouve sur Internet ?
Également, oui.
Donc sur Internet, si on cherche Enfance et Partage, comité départemental de l'Ain.
Oui, je pense qu'on y arrive. Sinon, c'est 1@enfance-et-partage.org.
D'accord.
Voilà. Et alors, encore un autre, j'aurais besoin également de bénévoles. C'est vraiment quelque chose qui est très important au niveau local, parce que nous avons beaucoup d'interventions à assurer auprès des établissements scolaires. Nous avons un agrément de l'éducation nationale. Hein. Et puis, bien sûr, pardon, des aides financières et des dons, des participations, comme toute association, il y a aussi
donc,
des besoins financiers.
On a envie de soutenir, on peut faire un don, on a envie de passer un peu de temps, d'aller sensibiliser des enfants, on peut venir voir Enfance et Partage et puis se former à pouvoir aller rencontrer les enfants et aborder ces sujets-là, en tout cas dans des écoles avec des enfants.
Oui, parce que le bénévolat chez nous n'est pas une adhésion, c'est un bénévolat, et pour être bénévole, il y a une formation.
1901 sur 90 sur Radio B, l'instant formation.
Eh bien, dans 1901 sur 90, on a aussi une formation, une rubrique formation. Et pour ce mois-ci, je vais vous parler de la première embauche. Oui, on est une association, on fait plein de trucs, on est vraiment très très occupé. Et puis une idée arrive, tiens, si on embauchait. Si notre association avait son premier salarié. C'est souvent un moment crucial dans la vie de l'association et dans son développement. Bon, les bonnes raisons. Attention, si vous embauchez, c'est parce que vous y passez... Si vous voulez embaucher, parce que vous y passez trop de temps et que vous avez besoin de vous décharger, l'embauche n'est pas une bonne idée. Il faudra plutôt travailler sur vos activités, votre organisation ou encore une stratégie pour mobiliser de nouveaux bénévoles. Par exemple, venir parler de son association à Radio B et comme ça, on vous fait connaître et plein de gens ont envie de venir chez vous. En effet, avoir un salarié permet du développement mais ne donne pas moins de travail aux bénévoles. Cela donne juste des missions différentes, en particulier assumer un rôle employeur. 2. Vérifier le budget. Pour faire très rapide, un poste à temps plein au SMIC en intégrant tous les frais, c'est 30 000 € maximum. Donc soit il faut disposer d'un budget suffisamment solide, soit il faut travailler sur un modèle économique de l'association. 3. Il faut forcément réorganiser le travail du bureau. Qui se charge de la relation employeur, des démarches de recrutement, savoir quel type de contrat prendre, comment positionner le poste par rapport à la convention collective et enfin assurer le suivi régulier du salarié dans son travail. Et puis 4, une fois le recrutement bouclé, votre salarié est choisi, avant son accueil, il vous faudra faire un certain nombre de choses. Déjà, vous immatriculer auprès de l'URSSAF, il faudra vous créer un compte employeur, faire la DPAE, c'est la déclaration préalable à l'embauche, ça se fait en ligne, c'est à remettre au salarié, avec la date de l'embauche, le numéro de sécurité sociale, la date, le lieu de naissance, une copie de la carte d'identité et de la carte de sécurité sociale, plus l'adresse à jour du salarié. Il faudra que vous puissiez mettre à jour votre registre unique du personnel avec le nom, la date d'entrée, le type de contrat et puis aussi la sortie le jour venu. Il faudra vous affilier aux différentes caisses et puis prendre une complémentaire santé. Le salarié peut garder la sienne jusqu'en décembre, puis changer en janvier, sauf si la complémentaire est une obligatoire familiale. Voilà. L'association doit fournir un contrat, même si elle a, pendant un temps donné, zéro salarié qui sont affiliés. Et puis enfin, il faut prévoir une visite médicale d'embauche, y compris pour la reprise et pour la pré-reprise. Madame Dussault, merci d'être venue parmi nous. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis peut-être le mot de la fin.
Merci beaucoup à vous et j'espère que ce message sera entendu autour de nous.
Bonne continuation à vous.
Merci.
1901 sur 90, sur Radio B, l'agenda de la Maison des Assos.
Alors, quelques dates. L'Assemblée Générale de la GLCA, ce sera le 11 juin, c'est un mardi soir de tête. Donc voilà, si vous voulez venir découvrir l'ensemble de l'activité de la GLCA, pourquoi est-ce qu'on anime des émissions de radio, et puis bien sûr prendre le temps de discuter de la vie associative, notez le mardi 11 juin. On recevra l'Assemblée Générale de notre tête de réseau Savara le 24 juin. C'est l'ensemble des collègues, l'ensemble des collègues qui font de l'accompagnement à la vie associative dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On se retrouvera à Bourg-en-Bresse le 24 juin. Les points asso. À partir du mois d'avril, un mercredi matin par mois, de 8h à 9h, on vous propose, avec un intervenant, une intervention en mode petit déjeuner. Par exemple, pour le mois d'avril, on a déjà fait sur le RGPD, donc le Règlement Général de Protection des Données. Et voilà, un certain nombre de sujets thématiques seront abordés avec vous, avec un thème différent par mois, et puis toujours un intervenant. Sur les formations, notre programme de formation se termine, mais nous travaillons déjà sur celui de 2019-2020. Alors, si vous souhaitez que sur votre commune, sur votre territoire, une formation des bénévoles puisse venir se tenir, que nous puissions nous déplacer jusque chez vous, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, c'est le moment, afin qu'on puisse discuter d'un sujet de formation à aborder et puis pouvoir fixer une date pour la période 2019-2020. Et puis pour terminer, vous le savez, la GLCA travaille sur l'impact du numérique sur la vie associative. Si vous vous posez des questions, comment animer son équipe à distance, comment organiser le travail, quels outils utiliser, si ces questions vous intéressent, on vous proposera 3 jours de formation pour des bénévoles mais aussi pour des salariés associatifs. Ça sera fin octobre, début novembre, la date n'est pas encore fixée, mais c'est entièrement pris en charge. .1 sur 90, la radio des assos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain sur 90 FM, les ondes de Radio B, ou en podcast sur le site internet radio-b.fr à la rubrique 1901 sur 90, où vous retrouverez toutes nos infos. À bientôt.